Vous êtes assemblés sur le campus de l'Université Brigham Young et dans de nombreux autres endroits du monde pour écouter Frère Ballard du Collège des 12 apôtres. Je suis navré de vous décevoir. Frère Ballard n'est pas en mesure d'être parmi vous ce soir. Il aurait vraiment souhaité être ici. Et je peux vous assurer que moi aussi, j'aurais souhaité qu'il y soit. Mais je suis honoré que l'on m'ait demandé de parler à sa place. Je sais ce que cela veut dire d'être remplaçant. Il y a exactement 50 ans, j'étais à bord d'un énorme et magnifique paquebot au milieu de l'océan Atlantique et faisait route vers les quais de Southampton, en Angleterre. Avec un petit groupe de missionnaires enthousiastes, je m'apprêtais à commencer une mission dans la mission britannique. Les missionnaires se rendaient encore par mer plutôt que par la voie des airs à leur champ de mission éloigné. Il me semble que les frères Wright avaient déjà fait leur premier vol, mais mon voyage à travers l'Atlantique remonte si loin, plus loin même qu'à cette époque. J'ai beaucoup aimé ma mission. Elle a présenté beaucoup à ce moment-là et cela a continué tout au long des années. Elle est le symbole de nombreuses bonnes choses de cette vie. La quantité de gens qui sont venus à l'Évangile par suite du travail de ce petit groupe de missionnaires n'est pas négligeable. Mais ce qui était important aussi, c'est que le témoignage de l'Évangile s'est fortifié dans le cœur de chacun de nous. Je vous témoigne que cela a été une des grandes bénédictions de ma mission. Je savais que ce que je pensais être un témoignage fort avant d'entrer dans le champ de la mission. Mais mon témoignage a grandi à mesure que je servais et il a grandi dans mon cœur et dans mon âme. Et ça m'a soutenu dans les épreuves ou d'autres situations. Je serai éternellement reconnaissant de ma mission, de mon témoignage et de la protection que j'ai ressentie grâce à ma foi au Sauveur. Ce bouclier de la foi a été une protection morale et spirituelle tout au long des années. Cela me conduit à l'idée principale que j'aimerais vous présenter. Dans le livre de Mormon, nous voyons les conseils et les instructions qu'Alma donne à son fils, Elaman. Entre autres choses, il a donné cette exhortation à Elaman, « Enseigne-lui, le peuple, la haine éternelle du péché et de l'iniquité. » Il lui a donné cet encouragement, « Prêche-lui le repentir et la foi au Seigneur Jésus-Christ. » Et écoutez bien ces mots. Alma a dit, « Enseigne-lui à résister à toutes les tentations du diable par la foi au Seigneur Jésus-Christ. » En comprenez-vous le sens? Et en avez-vous la force? En avons-nous la force? Alma a continué ses instructions à Elaman en disant, « Enseigne-lui à ne jamais se lasser des bonnes œuvres, mais à être doux et humble de cœur, car ceux-là trouveront du repos pour leur âme. Oh, souviens-toi, mon fils, et apprends la sagesse dans ta jeunesse. Oui, apprends dans ta jeunesse à garder les commandements de Dieu. Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien. » C'est un conseil merveilleux pour tous, jeunes et vieux. La défense la meilleure et la plus sûre que nous possédions contre les tentations du malin réside dans notre foi en Christ, dans notre foi en son grand sacrifice expiatoire, dans notre foi et notre témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. Si notre foi et notre témoignage sont fermement en place et que nous en soyons conscients, les traits enflammés du malin ne pourront atteindre notre âme, ni la percer. Je souligne l'importance d'avoir notre foi et notre témoignage non seulement fermement en place, mais d'en être conscient. Si le Sauveur est présent à votre esprit, les tentations n'auront pas le pouvoir de vous vaincre. Plus important encore, si le Sauveur et votre foi en lui sont présents dans votre esprit et dans votre cœur, vous ne vous permettrez pas d'être dans des situations où les tentations pourraient survenir. En d'autres termes, que votre foi en Christ vous maintienne hors du territoire du diable. Et s'il en était besoin, que votre foi en Christ vous procure dans votre vie une expérience semblable à celle de Joseph. Vous vous souvenez que Joseph avait été vendu en Égypte et était devenu un serviteur apprécié de Potiphar, le capitaine de la garde de Pharaon. La femme de Potiphar nourrissait des intentions impies envers Joseph. Mais immédiatement et catégoriquement, Joseph a refusé et rejeté ses avances, disant, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Ses intentions devenaient pressantes, et les Écritures nous disent que Joseph partit, et même qu'il s'enfuit au dehors, abandonnant cet environnement de tentation. Il a résisté à toutes les tentations du diable par sa foi, foi au Seigneur Jésus-Christ. Dans les écoles primaires, les enfants du monde entier apprennent les bases de la connaissance que sont la lecture, l'écriture et le calcul. On en parle souvent en anglais comme des trois R. Même si la lettre R ne marche pas dans toutes les langues, nous avons tous appris à lire, à écrire et à résoudre des problèmes simples. Lorsque je pense aux doctrines fondamentales qui soutiennent ma foi, je trouve encore les trois R. Résurrection, révélation et rétablissement. Ces trois mots contiennent une grande partie de ce que le Seigneur souhaiterait que nous apportions au monde. Ils nous instruisent sur le Sauveur Jésus-Christ et son expiation. Ils nous enseignent comment Dieu communique avec nous par l'intermédiaire des serviteurs qu'il s'est choisis. Ils nous parlent de Joseph Smith, le prophète, et du rétablissement de l'Évangile. Même s'ils ne contiennent pas toutes les doctrines merveilleuses et inspirantes de l'Évangile, nous pouvons y trouver la base d'une foi qui peut nous fortifier lorsque nous devons résister aux tentations du diable. Réfléchissez avec moi à la résurrection. De nombreux livres ont été écrits sur ces sujets sacrés et que je ne peux qu'effleurer ici. Donc sur la résurrection, la révélation et le rétablissement. Représentez-vous avec ces vérités fermement et volontairement à l'esprit et dans le cœur afin d'assurer cette défense contre le mal. La doctrine de la résurrection est aussi vieille que le monde. Elle était et est toujours une partie essentielle du plan du bonheur institué par notre Père Céleste. Le Seigneur a instruit Moïse au sujet de la création, de la chute d'Adam et de l'expiation. Il a dit entre autres, « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Cela faisait partie du plan. L'homme a été racheté de la chute par et grâce au sacrifice expiatoire du Sauveur Jésus-Christ. À travers la chute d'Adam, la mort physique et la mort spirituelle ont été provoquées, non seulement pour Adam et Ève, mais encore pour tout le genre humain. Grâce à l'expiation, la promesse de la résurrection a été faite à quiconque a vécu ou vivra sur la terre. L'apôtre Paul a écrit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, De même aussi, tous revivront en Christ. La mort physique, comme nous le savons tous, est la séparation de l'esprit et du corps. Le péché provoque la mort spirituelle, qui est la séparation de notre esprit de la présence de Dieu. La résurrection, qui est le don du Sauveur, enlève les effets durables de la mort physique. Et donc, l'immortalité de l'homme est accordée comme un don gratuit et inconditionnel par la grâce du Christ. Tous ressusciteront. L'immortalité, c'est la vie qui dure toujours, tandis que la vie éternelle, c'est une vie qui dure toujours, mais en présence de Dieu. Gagner la vie éternelle et surmonter les effets de la mort spirituelle est aussi un don du Christ. Mais ce don est conditionnel. Il demande fidélité et obéissance de notre part. Neil A. Maxwell a dit, « L'expiation merveilleuse de Jésus-Christ est l'acte essentiel de toute l'histoire humaine. Elle assure la résurrection universelle, elle permet notre repentir et notre pardon personnel. Le Christ nous a offert un cadeau énorme et inconditionnel, la résurrection universelle. Par contre, l'offre du Christ de nous accorder le don supplémentaire de la vie éternelle, est conditionnelle. Il fixe les conditions par lesquelles nous pouvons recevoir ce grand don. Joseph Fielding Smith a dit, « L'expiation de Jésus-Christ a une nature double. Grâce à elle, tous les hommes sont rachetés de la mort physique et du tombeau et se lèveront dans la résurrection et dans l'immortalité de l'âme. En outre, en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile, l'homme recevra la rémission de ses péchés personnels par le sang du Christ et il héritera l'exaltation dans le royaume de Dieu, ce qui est la vie éternelle. Les gens qui ont eu à souffrir de graves blessures déformantes et invalidantes ou qui sont nés avec des handicaps devraient être réconfortés par la merveilleuse promesse de la résurrection. Écoutez ces paroles réconfortantes que l'on trouve dans le livre de Mormon. Or, il y a une mort qui est appelée mort temporelle, et la mort du Christ détachera les liens de cette mort temporelle de sorte que tous ressusciteront de cette mort temporelle. L'esprit et le corps seront de nouveau réunis sous leur forme parfaite. Membres et jointures seront rendus à leur forme propre. Et l'âme sera restituée au corps et le corps à l'âme, oui, et chaque membre et jointure sera restitué à son corps. Oui, même un cheveu de la tête ne sera pas perdu, mais tout sera restitué à sa forme propre et parfaite. Je crois que certains d'entre nous se réjouissent de ce verset d'Écriture. L'expiation réalise la résurrection des morts, et la résurrection des morts ramène les hommes en la présence de Dieu. Et ainsi, ils sont ramenés en sa présence pour être jugés selon leurs œuvres, selon la loi et la justice. Et ainsi, Dieu réalise ses grands et éternels desseins qui ont été préparés dès la fondation du monde. Et ainsi se réalise le salut et la rédemption des hommes. En décrivant les bénédictions que l'on reçoit grâce à la résurrection, Joseph Fielding Smith a dit, la résurrection sauve l'âme du l'homme du diable. L'immortalité de l'âme est le don que Dieu fait par l'intermédiaire de la mort et de la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Si le Sauveur n'était pas mort pour le monde, l'homme serait resté dans ses péchés. Il n'aurait pas pu y avoir de résurrection des morts et le corps physique serait descendu dans le tombeau sans résurrection. tandis que l'esprit aurait été éternellement assujetti au diable et à ses anges. Si nous considérons avec attention ce que signifie la résurrection et le sacrifice expiatoire du Sauveur, en gardant fermement son image et ses glorieuses vérités présentes à notre esprit et dans notre cœur, et nous ferons alors l'expérience du bouclier qui nous protégera du mal. Si notre amour pour le Sauveur est ce qu'il doit être, nous ne nous permettrons pas de compromettre ce que nous savons être bien. Si vous méditez ces vérités, vous sentirez une force qui vous envahira et qui pourrait bien changer votre vie pour toujours. Et à mesure que cela arrivera, vous ferez face à toutes les tentations du diable grâce à votre foi en Jésus-Christ. Voici plusieurs années, une belle jeune femme est venue me voir, moi, son président de pieu. Elle était troublée par certaines difficultés qu'elle éprouvait à ce moment-là. Elle m'a dit, « Président Kerr, il est si difficile d'être une sainte des derniers jours. » Nous avons discuté des raisons qui lui faisaient penser cela. Et notre conversation s'est dirigée tout naturellement vers une discussion au sujet du Sauveur et de ses souffrances pour chacun de nous. Nous avons parlé de sa résurrection et des implications dans notre vie, maintenant et dans l'éternité. Nous avons ensuite abordé l'explication que donne le Sauveur à ceux qui le suivaient concernant ce qu'il attendait d'eux. Les Écritures nous montrent que ce qui était demandé paraissait trop élevé pour certains d'entre eux. Ils ont tourné le dos au Sauveur et ont cessé de le suivre. Cette jeune sœur s'est assise tranquillement, s'est mise à réfléchir pendant un instant, puis avec des larmes dans les yeux, elle a dit, « Oh, je ne pourrais pas faire ça. » En suggérant qu'il existait plusieurs manières de tourner le dos au Seigneur, j'ai eu l'impression que la lumière s'allumait dans son esprit et dans son cœur. Elle a repris, « Je vois maintenant que si j'aime vraiment mon Sauveur et que je le garde présent dans mon esprit et dans mon cœur, je ne peux tromper sa confiance. » Puis elle a dit, « Je veux changer ce que j'ai dit quand nous avons commencé cette conversation. Je sais maintenant qu'il serait difficile de ne pas être une sainte de dernier jour. » Passons maintenant à la doctrine de la révélation divine continue. Le Seigneur a dit, « Et de plus, je vais vous donner un modèle en toutes choses, afin que vous ne soyez pas trompés. Car Satan est de tous côtés dans le pays et il s'en va tromper les nations. » Un élément essentiel de son modèle en toutes choses, c'est l'assurance d'avoir des prophètes, des voyants et des révélateurs vivants qui reçoivent des révélations divines pour guider et diriger l'Église aujourd'hui. Tout le monde peut recevoir révélation et inspiration par l'intermédiaire du Saint-Esprit pour soi-même. Et je ne parle pas de cette forme de révélation. Je parle de la révélation à l'Église et pour l'Église par l'intermédiaire des prophètes vivants. Quand je servais dans la mission britannique, j'ai eu la bénédiction d'enseigner des gens qui aimaient la Bible et qui s'appuyaient fortement sur son message divin. Lorsque nous avons enseigné la doctrine de la révélation continue, beaucoup se sont réjouis et étaient étonnés. Ils éprouvaient de la joie à la pensée que Dieu pouvait parler à nouveau à des prophètes choisis. Mais ils étaient étonnés parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ces principes divins dans leurs propres églises. Ils ont appris que la révélation continue était non seulement la source de la vérité divine, mais aussi la première source des Écritures. comprendre et accepter que de nouvelles vérités puissent exister en tant qu'écriture troublait les gens qui croyaient que la Bible était l'unique dépositaire de toute la parole de Dieu. Pourtant, les gens qui étaient honnêtes dans leur cœur ont accepté la cohérence entre la doctrine de la révélation continue et les modèles bibliques en qui ils croyaient, mais qu'ils n'avaient pas totalement compris. Mark E. Peterson, qui a été pendant de nombreuses années membre du Collège des Douze, a décrit ce que signifie la révélation à l'Église et pour l'Église. Il a dit, un signe infaillible de la véritable Église, c'est qu'elle possède des prophètes vivants choisis par Dieu pour la guider. Des hommes qui reçoivent régulièrement la révélation de Dieu et dont les écrits deviennent de nouvelles écritures. Un autre signe infaillible de la véritable Église, c'est qu'elle produise de nouvelles écritures émanant de l'œuvre de ses prophètes. Ce modèle infaillible de Dieu est manifeste dans ses relations avec son peuple depuis le commencement. Je pense que Frère Peterson a compris d'une manière profonde le principe de la révélation continue. Le Seigneur révèle sa volonté à des prophètes. Et alors qu'ils enseignent, le peuple est béni. La vérité révélée est écrite, quelques révélations peuvent être même ajoutées au canon doctrinaux. La doctrine de la révélation continue, avec les nouvelles écritures qui en résultent, est un élément spécifique du rétablissement. Cela décrit le processus même par lequel le rétablissement se produit. Dans Amos, il est dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ a été le résultat de nombreuses révélations envoyées des cieux. Ces révélations ont été données aux prophètes des derniers jours, choisis, préparés et ordonnés dans ce but divin. Notre message au monde entier, c'est que Joseph Smith est ce prophète choisi. Nous témoignons que Dieu a parlé de nouveau, parle encore et révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes vivants. Le témoignage de cette vérité est extrêmement réconfortant et l'Esprit témoigne de ces vérités que nous lisons et entendons régulièrement. Un des moments forts de ma mission a été mon expérience personnelle de la doctrine de la révélation. Comme j'étudiais les Écritures, afin de me préparer à enseigner les gens, j'ai été émerveillé par les révélations anciennes et modernes du Seigneur qui se déroulaient devant moi. Je ne doute pas naturellement des choses, mais j'aime chercher les preuves scripturaires et logiques des croyances que j'ai reçues à travers mes études et ma foi. Pendant un temps, mes recherches dans les Écritures ont été dominées par une idée qui avait germé dans ma tête et qui était un résultat logique. Je me suis dit, si les revendications de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours au sujet de la révélation continue sont fondées, les moyens par lesquels les révélations ont été reçues par Joseph Smith, le prophète, et ses successeurs, doivent être cohérents avec ceux par lesquels les révélations ont été reçues par les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous comprenez? Il me fallait la preuve de cette consistance entre la comment les révélations modernes sont reçues et comment les révélations étaient reçues dans les temps anciens. Le temps ne me permet pas de décrire tout ce que j'ai trouvé dans cette recherche, mais je peux vous dire que le modèle du Seigneur m'est apparu très clair. Les prophètes ont reçu les révélations par des moyens extrêmement cohérents. On peut décrire ces moyens à l'aide de termes différents et on peut même les diviser en groupes, mais le modèle constant est présent. J'ai identifié 5 moyens spécifiques par lesquels les révélations ont été données aux prophètes. Tout au long des Écritures, j'en ai relevé de multiples exemples. Pour chacun d'eux, on trouve ce modèle en permanence dans toutes les Écritures, anciennes et modernes. Peut-être une autre fois, je pourrais discuter des 5 moyens de révélation et vous montrer cette cohérence dans la révélation moderne et ancienne. Mais la connaissance de cette glorieuse vérité m'a fortifié dans ma foi en notre Père céleste et en son Fils Jésus-Christ et continue de le faire. Savoir que nous avons un prophète vivant qui reçoit des révélations de Dieu, tout comme Abraham, Moïse, Ésaïe, Pierre, Paul et bien d'autres, réconforte et rassure énormément. Chacun de vous doit parvenir à la connaissance de ce principe divin et en avoir le témoignage. Mais vous pouvez faire tout ça et vous pouvez faire tout à fait confiance au témoignage que je vous rends maintenant. En ce moment même, vous pouvez garder fermement et volontairement à l'esprit la conviction que Dieu parle à ses prophètes choisis et vivants, aujourd'hui comme il l'a fait autrefois. Le témoignage de la doctrine de la révélation et de la révélation continue soutiendra votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de ce fait vous fortifiera dans votre résolution de résister à toutes les tentations du diable. S'il vous arrive d'être confronté à de sérieuses tentations, efforcez-vous de penser au président Gordon B. Hinckley. Pensez à lui en tant que prophète, voyant et révélateur qui reçoit directement les révélations du Seigneur pour l'Église. Pensez à la révélation qu'il a reçue au sujet de la construction des petits temples dans le monde entier, mettant à portée de main d'un plus grand nombre de membres de l'Église les bénédictions sacrées du temple. Laissez la pensée consciente d'un prophète vivant qui reçoit régulièrement des révélations au sujet des temples sacrés, vous détournez des tentations et préservez votre dignité de recevoir les bénédictions sacrées du temple. Nous croyons réellement tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes pour le royaume de Dieu. Nous avons bavardé et j'espère que vous avez réfléchi sérieusement à la résurrection et à la révélation. Qu'en est-il du rétablissement? Parlons maintenant du rétablissement. Nous sommes ici grâce au rétablissement. Alors qu'une connaissance fondamentale de la résurrection et des révélations puisse être trouvée dans les Écritures anciennes, la plus grande partie de ce que nous connaissons est une conséquence du rétablissement de l'Évangile dans sa plénitude par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Le message du rétablissement est que Dieu vit, que Jésus est le Christ vivant, que l'Évangile a vraiment été rétabli sur la terre dans sa plénitude et que Joseph Smith a véritablement été et est un prophète moderne de Dieu, que Gordon B. Hinckley est un prophète vivant aujourd'hui et que le livre de Mormon est la parole de Dieu, ne formant qu'un avec la Bible dans les mains du Seigneur, maintenant et à jamais. Le rétablissement de la vérité n'aurait pas été nécessaire s'il n'y avait eu la perte de la vérité, ce qui s'est produit de nombreuses années, peu d'années après le ministère terrestre du Sauveur. Cette perte de la vérité, appelée la grande apostasie, a été vue et prédite à la fois par les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le Seigneur a rétabli son Église dans toute sa pureté et il a conféré la sainte prêtrise à ses disciples. Nous ne pouvons nous lancer dans le détail des causes et des explications de l'apostasie et de la perte de la prêtrise, mais même une recherche fortuite dans l'histoire des religions confirmera cette réalité. Amos, prophète de l'Ancien Testament, a prophétisé cette perte de la vérité. Il a dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Peu après que notre Sauveur soit monté aux cieux, Pierre a prévu le rétablissement. Il a dit, « Repentissez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Au sujet de la seconde venue du Sauveur, l'apôtre Paul a écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. » On savait donc qu'il fallait une chute avant la seconde venue. Ces prophéties et d'autres qui ne sont pas mentionnées se sont véritablement accomplies, et nous sommes les bénéficiaires dans notre vie de ces grandes bénédictions qui viennent de la main du Seigneur. Le président Hinckley a dit, « Voici les jours de la restitution. Voici les jours du rétablissement dont on parlait si clairement et avec force, Pierre et l'apôtre Paul, dans la Bible. Je le répète, vous et moi faisons partie de l'accomplissement de cette prophétie. C'est une partie du plan du Dieu du ciel qui prévoyait qu'il y aurait une apostasie et qu'un rétablissement serait nécessaire. Le rétablissement de toutes choses, comme l'avaient dit les prophètes de Dieu, s'est vraiment produit par le ministère de Dieu le Père, du Sauveur Jésus-Christ, son Fils, de Pierre, Jacques et Jean, de Jean-Baptiste, de Moïse, Élia, Moroni et d'autres prophètes du Seigneur dans les temps anciens. Joseph Smith a été préordonné à ce rôle sacré comme instrument par l'intermédiaire duquel Dieu rétablirait l'Évangile dans cette dispensation de la plénitude des temps. Le Sauveur lui-même a rendu témoignage de cette vérité. Il a dit, c'est pourquoi moi, le Seigneur, connaissant la calamité qui s'abattra sur les habitants de cette terre, j'ai fait appel à mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai parlé du haut des cieux et lui ai donné des commandements, afin que s'accomplisse ce qui a été écrit par les prophètes, afin que la foi grandisse sur la terre, afin que mon alliance éternelle soit établie, afin que la plénitude de mon Évangile soit proclamée par le faible et les simples, jusqu'aux extrémités du monde et devant les rois et les gouverneurs. Que dire de plus? Le témoignage du Sauveur lui-même au sujet de Joseph Smith. Il a parlé du haut des cieux et lui a donné des commandements. Et aviez-vous remarqué cette phrase, afin que la foi grandisse sur la terre? Le rétablissement de l'Évangile se tient comme un rempart de notre foi pour la défense contre les desseins du malin. Je prie que chacun d'entre vous gardiez ces vérités fermement et volontairement à l'esprit et dans le cœur. Je vous supplie, comme le roi Benjamin l'a fait avec son peuple, quand il a dit, « C'est pourquoi je voudrais que vous soyez constants et immuables, étant toujours abondants en bonnes œuvres, afin que le Christ, le Seigneur Dieu omnipotent, vous scelle comme sien, afin que vous soyez amenés au ciel, que vous ayez le salut éternel et la vie éternelle par la sagesse et la puissance et la justice et la miséricorde de celui qui a tout créé dans le ciel et sur la terre. » J'aimerais conclure avec cette citation du président Hinckley qui résume tout. C'est l'œuvre sacrée de Dieu. Son origine et sa doctrine sont divines. Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur ressuscité, la dirige. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur immortel. Sa révélation est la source de notre doctrine, de notre foi, de notre enseignement. En fait, c'est le modèle sous-jacent de notre vie. Joseph Smith a été un instrument entre les mains du Tout-Puissant en réalisant ce rétablissement. Et cet élément fondamental, la révélation, fait partie de l'Église aujourd'hui comme à l'époque de Joseph. Notre témoignage personnel de ces vérités, et sachez que je continue de citer le président Hinckley, notre témoignage personnel de ces vérités est la base de notre foi. Nous devons apprendre à le nourrir. Nous devons le cultiver. Nous ne pouvons pas le délaisser. Nous ne pouvons pas le mettre de côté. Sans lui, nous n'avons rien. Avec lui, nous avons tout. Je vous laisse maintenant mon témoignage de la divinité du Sauveur. Il vit. Je témoigne que la réalité de la résurrection, la pertinence de la révélation et le sérieux du rétablissement augmenteront votre foi au Seigneur Jésus-Christ et vous aidera à résister aux tentations du diable. Je vous laisse mon témoignage, mon amour et ma bénédiction à cette fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.